Milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins. Amélie Beaucourt.
Bonjour et ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, 8 milliards de voisins scrutent de près le couple et les relations amoureuses à la recherche des tensions et des problèmes de communication. Alors loin de nous l'idée de chercher la petite bête évidemment, mais au contraire, on va parcourir ensemble les solutions qui s'offrent à nous pour renouer avec l'autre. Que faire quand on ne s'entend plus dans le couple? Comment gérer une dispute, gérer sa colère et comment exprimer ses attentes? Avec nous, Jérôme Oliveira, auteur de plusieurs ouvrages autour des relations amoureuses. Le dernier en date sort prochainement aux éditions Erol et s'intitule Burning Love, le journal pour brûler d'amour sans se brûler les ailes. Bonjour Jérôme.
Bonjour Amélie, bonjour à tous.
Et avec nous au téléphone, Cécilia Como, psychanalyste et thérapeute de couple. Le couple parfait n'existe pas, éloge de l'imperfection amoureuse. C'est le titre de votre livre, Cécilia, paru chez Flammarion. Bonjour.
Bonjour Amélie, bonjour Jérôme et bonjour aux 8 milliards de voisins.
Alors n'attendez pas pour leur poser vos questions, appelez-nous dès maintenant. Le numéro WhatsApp de l'émission, c'est le 33 7 64 45 51 41.
Écoute pas les termes aujourd'hui. Ce que j'ai dit là, c'est important que je...
8 milliards de voisins, on est ensemble.
8 milliards de voisins, c'est maintenant.
Et un premier message pour commencer, laissé par Brice qui nous contacte depuis Yaoundé.
Bonjour les voisines. Quand les conjoints n'arrivent plus à se comprendre, tout d'abord ils doivent faire une assise dans l'optique de se poser de bonnes questions et de chercher des solutions. Par exemple, ils peuvent se demander pourquoi nous ne nous comprenons plus. Quel est le nœud du problème? Plutôt, ils doivent trouver le chemin menant au compromis. Bébé, je suis désolé. J'aurais pu, je vais me raviser. Au finish, il leur faut une bonne dose d'humilité.
Une bonne dose d'humilité quand on est en couple, c'est le conseil de Brice pour résoudre les tensions. Le désaccord dans le couple, Jérôme Oliveira, est-ce que c'est inévitable de ne pas être d'accord avec son partenaire ?
Il suffit de regarder l'état de la planète. Je pense que c'est inévitable dans les relations humaines. Avec tous nos congénères, on a tendance à être en désaccord. Malgré cela, je trouve la remarque de Brice mais très profonde et hyper intéressante. L'idée d'instaurer un cercle de dialogue, de s'asseoir, de se poser et de chercher à se poser des bonnes questions, à savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens et chercher la cause, au-delà même de vouloir à tout prix trouver une solution. Je pense que c'est vraiment l'excellente direction pour toutes les problématiques des relations humaines, au-delà même du couple.
Cécilia Como, vous avez tout de suite donné le ton, on l'a dit avec le titre de votre livre, hein, « Le couple parfait n'existe pas ». Alors c'est vrai qu'on aimerait toujours être sur la même longueur d'onde, on a l'impression que ça serait plus simple, mais est-ce que ça existe vraiment un couple qui ne se dispute jamais ?
Alors, je pense que ça n'existe pas, et même si ça devait expliquer, je trouverais finalement un couple qui ne se dispute jamais plus suspect qu'un couple qui se dispute. Ça me paraîtrait effectivement étrange. Sur les désaccords, effectivement, ils sont un peu aussi inhérents à notre histoire. On entre en désaccord pour se construire vis-à-vis de nos parents. On entre en désaccord dans les fratries. C'est quelque chose, le désaccord quand même, il faut se rappeler qu'il nous distingue des autres. Si je suis tout le temps d'accord avec les autres, alors ce que je suis, mon individualité, se perd. Et c'est pour ça qu'on se dispute aussi dans les couples. Très souvent, c'est pour marquer son individualité.
Alors, on va tout de suite partir à N'Djamena, au Tchad. C'est Morgane qui nous appelle de là-bas. Bonjour, Morgane.
Bonjour, 8 milliards de voisins et voisines.
Alors, Morgane, on vous écoute. Racontez-nous.
Moi, je suis Morgane, je suis à N'Djamena. Ça fait déjà plus de 10 ans que je vis en famille. Et ces dernières années, ces trois dernières années, ça devient un peu difficile. Très difficile. Et manque de communication, manque de dialogue. Et c'est pas facile. Chacun sur se cantonne de son côté et on se regarde. Et c'est pas facile. Et j'essaie plusieurs fois, maintes fois, d'essayer de rétablir la communication, le dialogue, mais c'était pas facile. Et quelquefois, chacun s'énerve. On est là.
Donc, si je résume, Morgane, ça fait une dizaine d'années que vous êtes avec votre partenaire et ça ne va plus depuis 3 ans, si j'ai bien compris. Cécilia Como, je suppose qu'il faut peut-être approfondir oui. avec Morgane pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Est-ce que vous pourriez lui l'aiguiller, Cécilia ?
Mais déjà, il y a quelque chose dans ce que dit Morgane qui me frappe, c'est qu'il a dit on a un manque de communication et chacun campe sur ses positions. Très souvent, quand on est dans cette dynamique-là, c'est surtout qu'il y a un manque d'écoute. On a un peu trop l'habitude de penser que la communication, ça passe par le fait de bien s'exprimer, d'essayer de s'exprimer. Mais ça sert pas à grand-chose de bien s'exprimer si en face, on a quelqu'un qui n'est pas dans la disposition d'écouter. Très souvent, quand on campe sur ses positions, comme le dit Morgane, c'est parce qu'on n'est pas du tout dans la capacité d'écouter ce que l'autre a à dire. C'est ça, à mon avis, qui commence... Enfin, c'est par là que commencent les vrais soucis de on ne se comprend plus. C'est on ne se comprend plus parce qu'on ne prend plus le temps de s'écouter ou pour des raisons de ressentiment, parce que souvent il y a des ressentiments un peu enfouis, un peu d'amertume, qui font que puisque je ne me suis pas sentie écoutée, eh bien je n'écoute plus l'autre. C'est souvent un problème d'écoute plus qu'un problème de discussion verbale, je pense.
Morgane, vous dites que c'est compliqué avec votre partenaire. Comment est-ce que vous avez essayé justement d'améliorer cette communication entre vous ?
Ben, il arrive des fois où je rentre du boulot le soir, j'essaie d'observer le climat d'abord de la maison et l'atmosphère. Si ça ne répond pas, je ne parle pas. J'essaie de taquiner un peu les enfants, je joue un peu avec les enfants, tout ça. Et j'attends toujours de moments propices pour poser. Pour échanger et discuter avec mon partenaire, pour savoir à quel niveau le problème y est, on s'accepte quand même de s'asseoir, d'écouter, mais on ne dure pas. Une dizaine de minutes, 15 ans, ça ne va pas. Ça ne passe plus. Le message ne passe plus. Chacun s'énerve. Et on se sépare comme ça. Et chacun prend sa route. C'est la même chose comme ça. Bon, j'ai remarqué, ça m'a tellement fait mal ou à chaque fois j'essaie de rétablir cette communication, ça ne passe pas. Et je continue toujours à faire cet effort. Je continue toujours, mais par la grâce de Dieu, j'espère que ça va.
Oui, Cécilia, comment vous souhaitez réagir ?
Ce que je peux dire aussi, Morgane, c'est qu'il y a quelque chose qui est... alors, je ne veux pas faire du genrisme ou du sexisme, mais malgré tout, il y a quelque chose assez masculin. C'est que les hommes ont très envie de trouver des solutions. Et vous l'avez dit, moi, je suis tournée solution. Et c'est ça aussi qui, parfois, crée vraiment une incompréhension dans le dialogue. Parce que quand quelqu'un parle, et surtout, alors je vais le dire du côté des femmes, elles sont beaucoup moins tournées solution. Elles ont envie d'être écoutées. Les solutions, elles savent les trouver toutes seules. Or, les hommes ont l'impression d'être vraiment utiles d'être aidants. À partir du moment où ils vont amener une solution, ce qui, à mon sens, brouille un peu l'écoute.
Jérôme Oliveira, vous souhaitiez réagir tout à l'heure à ce que disait Morgane.
Oui, et également à ce que vient de dire Cécilia. Je pense qu'au niveau du couple, justement, parfois, la solution, c'est de ne pas chercher de solution. La raison pour laquelle, me semble-t-il, de ce que je ressens à travers les propos de Morgane, c'est qu'il y a une bonne intention, une bonne volonté à savoir communiquer, faire face à l'autre, en cherchant à installer un dialogue. Néanmoins, j'ai la sensation qu'il y a de l'angoisse, de la peur pour aborder véritablement ce que l'on ressent. Et c'est la raison pour laquelle, au bout de 10 minutes, ça tourne au conflit, parce que cette peur va tourner en contrôle, chercher à contrôler et à dominer finalement sa prise de parole et quelque part l'autre, tandis que parfois, la solution, c'est juste le silence et accueillir l'autre tel qu'il est, en cherchant à l'accepter.
Morgane, on a répondu à votre question ?
Oui, merci beaucoup et j'ai bien écouté. Merci beaucoup et je ferai davantage de mon mieux afin de venir dans les bons sentiments avec mon partenaire.
Merci, merci beaucoup Morgane, en tout cas, de nous avoir raconté cette histoire. Vous venez de dire quelque chose d'intéressant, Jérôme Oliveira, et j'aimerais l'avis de Cécilia Como à ce propos. Il ne faut pas forcément chercher des solutions. Il n'y a, pas forcément de solution à une dispute, et il faut parfois accepter que ça veut dire qu'il y a des problèmes qui ne seront jamais résolus, Cécilia Como.
C'est la grande difficulté, c'est d'accepter en fait effectivement cette notion qu'il y a des il y a des sujets en tous les cas sur lesquels nous ne serons jamais d'accord. Ça c'est très compliqué parce que quand on vit avec quelqu'un, on a toujours l'impression qu'il va falloir à un moment donné être sur la même ligne sur des sujets comme si on confondait d'ailleurs un peu sujet et valeur. C'est pas la même chose de partager les mêmes valeurs. Effectivement, c'est important pour progresser ensemble. En revanche, on peut avoir des avis très différents sur des sujets. Je donne un exemple simple. Il y a un sujet qui divise beaucoup chez les couples, par exemple, les couples recomposés, l'ex et les enfants d'un premier mariage peuvent être un grand sujet de conflit. Les beaux-parents peuvent être un grand sujet de conflit, quelque chose sur lequel on sera jamais d'accord. Si je pense que ta belle-mère est pas une belle personne ou une bonne personne, ça va rester un sujet récurrent parce que ça va être compliqué de me persuader du contraire. Et je pense qu'effectivement, il faut accepter à un moment donné, j'allais dire, de déposer les armes et de dire « ok ». On sera jamais d'accord sur ce sujet, mais je vais arrêter d'essayer de te persuader ou de te convaincre. Ça, ça fait quand même beaucoup de bien au couple. Mais le problème, c'est que c'est très compliqué d'accepter, par exemple, de dire, bah oui, voilà, ma femme ou mon mari a par exemple, de un rapport à mes enfants qui est pas formidable, elle les apprécie pas énormément. Vous voyez, ça c'est compliqué. On aimerait bien que dans un monde idéal, ça se passe mieux. Mais si on accepte d'arrêter de se battre sur des sujets dont on sait que systématiquement, quand ils reviennent sur la table, systématiquement ils déclenchent des coups de tonnerre et des orages, ben déjà c'est pas une mauvaise idée. En plus, ça a été totalement démontré par un monsieur, un brillant thérapeute américain qui avait bien démontré qu'il y a des sujets et des sujets de disputes qui sont solubles, donc on a une solution pour ça, et puis il y en a qui sont totalement insolubles, où il n'y aura de toute façon pas de solution, donc la seule chose c'est que les couples continueront à s'accrocher.
On va partir, on va rester à N'Djamena, pardon, au Tchad tout de suite, c'est Archiduc Théodore qui est avec nous, bonjour Archiduc.
Oui, bonjour à vous et bonjour à tout le monde.
Alors, on vous écoute. Vous êtes dans une relation à distance, c'est ça, Archiduc Théodore?
Oui, oui. Comme je suis à N'Djamena, j'ai une fille que j'ai aimée. On a fondé une relation il y a de cela 4 ans. Nous sommes connus à N'Djamena. Et nous sommes connus, c'est après 2 mois qu'elle avait effectué un voyage à Douala au Cameroun pour les études supérieures. Et moi, je suis à N'Djamena, je travaille ici. Et quand elle est là-bas, nous nous communiquons via les appels téléphoniques, les SMS et aussi les réseaux sociaux comme WhatsApp et Facebook. Et des fois, quand je l'appelle au téléphone, surtout les week-ends et que je n'arrive pas à lui rejoindre, c'est des problèmes. Quand elle m'appelle et qu'elle ne me rejoint pas pendant les week-ends, ce sont les mêmes problèmes. Et une fois, chez moi, quand j'avais reçu un appel WhatsApp, de son côté, quand on communiquait, il y avait une cousine à côté, c'était par vidéo, elle avait vu l'image et comme c'était une personne qu'elle n'a pas reconnue, frappée de jalousie, elle croyait que c'est une copine et de là il y avait assez de problèmes. Les parents ont intervenu, sa maman est intervenue et après tout, elle a compris que cette cousine-là était une fille avec qui elle communiquait. J'étais obligé de l'envoyer les images pour arranger la situation.
Alors là, Archiduc Théodore, vous soulignez plusieurs choses. Donc déjà, on a une relation à distance avec toutes les tensions que l'éloignement peut générer, si je comprends bien. Ensuite, il y a le malentendu qui peut être généré aussi par le fait de communiquer par les réseaux sociaux, par téléphone. Et ensuite, la problématique de la jalousie. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent sur le tapis. Jérôme Oliveira, qu'est-ce que vous conseillez à Théodore? Gérer une relation à distance comme ça, c'est clairement pas évident.
C'est une problématique très contemporaine en réalité. Moi, j'ai vécu pendant très longtemps une relation à distance et je comprends tellement ce que vient d'exprimer Archiduc Théodore. Je pense que ça soulève plein de choses et plein de difficultés et en même temps, c'est peut-être le moyen d'intégrer plein de choses et de recomposer en fait un mode de relation très personnel, c'est-à-dire qui sorte des codes habituels des relations, des codes culturels, des codes identitaires, pour finalement essayer de trouver un juste équilibre, un compromis par rapport aux besoins de chacun dans le couple à travers une relation à distance, parce que forcément ça va soulever plein d'angoisses, l'angoisse d'être rejeté, l'angoisse d'être abandonné. Et je pense que à ce moment-là, forcément, la communication et le fait d'être intègre et responsable d'une certaine façon de ses émotions et de pouvoir les partager avec l'autre en toute transparence et honnêteté, cela devient fondamental dans la longévité du couple.
Et exprimer justement ce que vous venez de dire, ses sentiments à l'autre par ce biais-là. C'est une question pour vous, Cécilia Como, par le biais des réseaux sociaux et du téléphone. Est-ce que ça ne biaise pas justement un petit peu la communication ?
Je ne suis pas sûre que ça la biaise. Au contraire, j'ai l'impression que parfois ça la facilite quand même. Hein. Pardon, de pouvoir effectivement, j'allais dire, être protégée quand même par le téléphone ou alors l'écriture, c'est différent parce que dans l'écriture vous perdez tout ce qui est en dehors du son et de la voix, tout ce qui est infraverbal, l'intonation, le sourire, etc. Mais par téléphone, je trouve au contraire que ça peut être très romantique. Je rappelle quand même que les correspondances écrites de grands amoureux, que ce soit Balzac, Musset ou autres, enfin on se régale quand même de lettres que se sont envoyées comme ça des gens à distance. Mais là, dans ce que vit Archiduc Théodore, on voit quand même surtout qu'il y a une histoire de méfiance, de confiance. Et je pense que s'il veut avoir un petit peu plus de tranquillité et moins susciter d'anxiété et de jalousie chez sa partenaire, elle a surtout vraisemblablement besoin d'être extrêmement rassurée. Donc la question, ça va être comment est-ce que je peux rassurer quelqu'un qui est à distance, qui est un peu méfiante, parce que là on parle vraiment d'un sujet de confiance. Donc comment est-ce que je peux lui donner confiance en moi de sorte qu'elle ne se méfie plus quand elle aperçoit ou qu'elle voit une femme, une silhouette féminine ou autre. Et peut-être qu'il ferait bien de lui poser directement la question à elle, de lui dire comment est-ce que je peux te rassurer.
Archiduc Théodore, est-ce que Cécilia et Jérôme ont répondu à votre question ?
Oui, oui, ils ont répondu d'une manière très pompe et puis j'en suis vraiment convaincue. Je leur dis infiniment merci.
Mais merci, on vous remercie beaucoup Archiduc Théodore d'avoir témoigné. Et on va partir tout de suite à Brazzaville, c'est Altiane qui nous appelle de là-bas. Bonjour Altiane.
Bonjour, oui mais...
Alors, je crois que la communication a été coupée. J'ai une question pour vous aussi, Cécilia Como, oui. Au sujet de la jalousie dont parlait Archiduc Théodore. Oui. Sa partenaire a visiblement peur et des angoisses, vous le disiez, de confiance, etc. On a un auditeur qui nous écrivait de Lomé au Togo, qui lui a du mal à passer au-dessus de l'infidélité de sa compagne. Ça, c'est un grand sujet aussi dans le couple. Qu'est-ce que vous conseiller quand vous voyez, puisque vous êtes thérapeute de couple, quand vous voyez des couples venir vous voir pour cette problématique-là ?
Alors, là, c'est vraiment un grand sujet, Amélie. Je vais essayer de résumer.
Ça mériterait une émission à part entière.
Oui, et puis ça c'est, effectivement, ça en a fait d'ailleurs beaucoup d'émissions, de livres, etc. C'est compliqué quand on n'arrive pas à passer outre parce que ça veut dire que quelque chose en nous saigne toujours. Il y a quelque chose qui n'est pas cicatrisé. C'est vraiment une attaque, l'infidélité, c'est une attaque de son moi interne. Une des choses peut-être importantes, c'est que les gens, pour guérir, ont besoin de comprendre très souvent. Et tant qu'ils ne comprennent pas vraiment, ils ont beaucoup de mal à passer à autre chose. Ça, c'est important pour eux parce que ce qu'il y a derrière comprendre, c'est si je ne comprends pas, j'ai peur que ça recommence. Si je comprends, je saurai en fait, quelles sont les probabilités que ça recommence. C'est assez illusoire, mais c'est pas grave, ça fait du bien. Donc peut-être que s'il n'arrive pas effectivement à pardonner, c'est parce qu'il n'a pas suffisamment bien compris, on ne lui a pas suffisamment bien raconté ou expliqué ce qui s'était joué dans cette infidélité. Il se joue tellement de choses dans l'infidélité que c'est important, je pense, de comprendre ce qui s'est joué.
Mais le fait de comprendre pour cicatriser, c'est vrai pour l'infidélité, mais pour tout un tas d'autres sujets dans le couple, non ?
Sûrement, c'est particulier. Mais ça m'est, oui, sûrement, mais ça m'est apparu de manière très flagrante dans l'infidélité, parce que les gens qui ont été trompés ont une tendance quasi obsessionnelle et du coup assez compulsive à poser d'abord un énormément de questions, deux souvent les mêmes questions, et trois en boucle. Avec qui, comment, pourquoi, et à ce moment-là, tu faisais quoi, etc., etc. Ils ont besoin de screener un peu toute la relation, enfin, tous les cas, ce qu'ils en ont découvert, pour s'en approprier à peu près tous les coins et les recoins. Donc, la question, c'était, mais pourquoi ? Pourquoi les gens font ça ? Alors, une des raisons, c'était pour un peu purger l'histoire de l'autre, parce que l'autre, finalement, en étant infidèle, a créé une intimité parallèle, et ça m'est insupportable, donc je vais essayer de m'approprier cette intimité, et aussi parce que j'ai besoin de comprendre. Moi, les gens me disent, mais tant que je ne comprends pas, je ne peux pas avoir confiance, parce que ben, finalement, n'ayant pas accès à la raison fondamentale, même s'il n'y a pas de raison fondamentale unique, mais le risque, c'est que ça recommence, ben, que ça recommence, quoi.
Alors, on va retrouver Altiane à Brazzaville. Bonjour, Altiane. Altiane, est-ce que vous m'entendez ? Non, je pense qu'Altiane ne m'entend pas. On va essayer de la joindre dans la deuxième partie de cette émission et poursuivre notre discussion au sujet de comment rétablir la communication dans le couple. Mais juste avant, on écoute la chanteuse et compositrice Kali Uchis. C'est Desafinado sur RFI. Love is like a never-ending melody. Poets have compared it to a symphony. Conducted by the lighting of the moon, but our song of love is slightly out of tune. Once your kiss has raised me to a fever pitch, now the orchestration doesn't seem so rich. Seems to me you've changed the tune we used to sing, like the bossing over to swing. Used to harmonize two souls in perfect time. Now the song is different and the words don't even rhyme. You forgot the melody our hearts would always groan. So what good's a heart that's slightly out of tune? Turn your heart to mine the way it used to be. Join with me in harmony and sing a song of loving. We're bound to get in tune again before too long. There'll be no desafinado when your heart belongs to me completely. Then you won't be slightly out of tune, you'll sing along with me. There'll be no desafinado when your heart belongs to me completely. Then you won't be slightly out of tune. Vous écoutez 8 milliards de voisins sur RFI, une émission consacrée aujourd'hui au couple, comment rétablir la communication, comment mieux se comprendre. Avec nous pour en parler, Cécilia Como, psychanalyste et thérapeute de couple. Cécilia, vous êtes aussi sexologue d'ailleurs et vous avez écrit le livre « Le couple parfait n'existe pas, éloge de l'imperfection amoureuse » chez Flammarion. Et avec nous également, Jérôme Oliveira, auteur de plusieurs ouvrages qui concernent les relations amoureuses. Et le dernier, Burning Love, le journal pour brûler d'amour sans se brûler les ailes, sort à la fin du mois de janvier aux éditions Erol. Vous vouliez dire quelque chose d'ailleurs, Jérôme Oliveira, au sujet du sentiment de trahison qu'on évoquait juste avant la musique.
Oui, le sentiment de trahison lors d'une infidélité avérée. Parfois, il y a aussi une limite par rapport au besoin de compréhension de la cause. Pourquoi l'autre m'a fait cela ? Pourquoi est-ce qu'il a fait cela ? Pourquoi est-ce qu'il m'a trahi ? Et la limite, c'est que parfois, il n'y a pas de cause. Et on a beau se tourner toutes les questions possibles et inimaginables et se prendre la tête avec son mental qui va se questionner, on ne peut pas accéder à l'intériorité de l'autre. Et c'est aussi la limite, en fait, du couple. C'est que parfois, on peut passer 30 ans avec une personne et se rendre compte, malgré tous les efforts de communication possibles et imaginables, qu'en réalité, on ne connaissait pas la personne. Et qu'elle vivait réellement une vie parallèle, sans forcément être infidèle d'ailleurs. Mais simplement qu'on ne connaissait pas la personne. J'ai rencontré beaucoup de couples comme cela, qu'ils soient des couples ouvriers ou au sommet de l'État, et qui finalement un jour se réveillent et se rendent compte que l'autre vivait une vie complètement parallèle. Et la raison pour laquelle ça nous ébrèche et qu'on se sent atteint dans son intégrité quand l'autre peut avoir une relation parallèle et être infidèle, ça pose aussi la question de la construction de soi. Pourquoi ça nous ébranle tant ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin, au-delà même du lien d'attachement qui est inhérent à toute relation humaine, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être si possessif par rapport à l'autre ? Pourquoi on se sent si vulnérable à travers cela ? Et du coup, peut-être que toutes les questions que l'on se pose pour essayer de déterminer la cause de l'infidélité de l'autre, en fait, est à chercher en soi. Pourquoi ça m'émeut tant ? Pourquoi j'y suis tant sensible ? Pourquoi ça m'est si impossible d'accepter tout simplement cela ? Parce qu'au-delà du pardon, c'est l'acceptation qui est si douloureuse et si difficile.
Des réponses à trouver en soi, mais ça ne veut pas dire qu'on est responsable pour autant de l'infidélité de son partenaire. On est d'accord ?
Non, absolument. Mais il n'y a pas forcément de jugement ou de culpabilité de part et d'autre à avoir par rapport à cela.
Alors, on va réessayer de joindre Altiane à Brazzaville. Altiane, est-ce que vous m'entendez ?
Je vous entends très bien.
Ah, bonjour Altiane, ravie que ça fonctionne.
Alors,
racontez-nous Altiane, comment est-ce que vous vivez votre relation et les tensions avec votre compagnon ?
Alors, moi Altiane, je suis dans un jeune couple. Avec mon partenaire, nous essayons tout le temps de communiquer sur des points qui sont un peu, je peux dire, différents l'un de l'autre. On essaie un peu de ramener l'un l'autre à la raison, de temps en temps.
Vous faites des efforts pour essayer de communiquer ensemble. Comment est-ce que ça se manifeste, Altiane ? Quel genre de choses, quel genre de, je sais pas, rituel est-ce que vous mettez en place ?
Bon, le rituel que nous mettons en place avec mon mari, c'est juste le dialogue au quotidien. Lorsque quelque chose ne va pas, lorsqu'il se sent un peu coincé ou moi de même, on essaie de parler au quotidien. C'est ça notre rituel.
Ça a l'air d'être quelque chose de très sain en tout cas. Est-ce qu'il vous arrive de vous disputer si malgré tout vous n'arrivez pas à communiquer ?
Comme tous les couples, on se dispute, mais on arrive toujours à trouver la solution au bon moment. C'est ça.
Moi, j'ai une question par rapport à ce que vous dites que je vais adresser à Cécilia Como. Est-ce qu'il y a, une importance à se disputer dans le couple ? On a vu, Cécilia, vous nous l'avez dit au départ, que et Alcène nous l'a rappelé, comme tous les couples, on se dispute. Mais est-ce qu'au-delà de ça, c'est important et la dispute est nécessaire ?
J'aimerais dire oui. Le problème, c'est la forme que prend la dispute. Parce qu'on se dispute depuis toujours. Tous ceux qui ont des frères et sœurs le savent. Tous ceux qui ont été à l'école le savent aussi. C'est encore une fois, c'est quelque chose qui est presque, j'allais dire, naturel quand on cherche à dégager un peu son individualité. Donc le souci, vraiment, finalement, ce qui vient polluer la dispute, c'est la forme que va prendre la dispute. Si on se dispute dans le respect, tout en respectant les opinions des autres et en ne cherchant pas à les convaincre ou à dévaloriser ou à à diminuer ce que dit l'autre, ça fonctionne plutôt très bien. On va pas se mentir, on a quand même une sacrée tendance quand on se dispute à vouloir un peu convaincre l'autre que mon monde est plus beau que le tien, et donc d'essayer de le ramener vers nous, alors soit de manière forte, soit de manière plus douce, mais même quand c'est doux, on peut à un moment donné être un peu se sentir un peu manipulé. On a tendance à vouloir un peu convaincre l'autre. Quelque chose que dit Altian qui est assez juste finalement, dans le dialogue quotidien, c'est plutôt une bonne formule, parce que c'est exprimer son ressenti de manière quotidienne, et donc en exprimant son ressenti, là ça va pas, là j'ai ressenti ça, eh bien c'est un peu évacuer finalement tout ce qui pourrait stagner, macérer, comme le ressentiment, c'est un peu le concept de la cocotte minute, c'est-à-dire que si on évacue la vapeur petit à petit au quotidien, comme a bien insisté Altian, ben ça marche beaucoup mieux que si on n'a pas ce système-là et qu'à un moment donné, on a un couvercle qui saute.
Donc, essayer de convaincre, chose à éviter absolument. Cécilia, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qu'il faut éviter de faire ? Alors, je pense... peut-être à des grosses colères, à...
Je peux aussi vous dire quelque chose que nous faisons tous, hein, et qui pourtant n'est pas une bonne chose, c'est d'inférer ce que l'autre pense.
C'est-à-dire
Et de faire des suppositions.
Penser à sa place.
Voilà. Ah oui, mais alors quand tu le dis comme ça, c'est parce que c'est pas la peine hein, de prendre ce ton. Très souvent, vous avez des gens qui vont vous dire mais quel ton. Donc on le fait. Hein, on a tous un peu la sensation d'avoir un pouvoir de télépathie. Ce qui est quand même assez surprenant parce que à part dans les Marvel, j'ai pas vu beaucoup de gens qui pouvaient effectivement pénétrer les pensées des autres. Et donc ça, c'est assez délétère dans le couple. C'est hyper énervant quand on est en train de vous dire ce que vous êtes supposé penser, quoi. Ça provoque chez nous un mouvement de défense quasi immédiat. Et donc on n'écoute plus du tout ce que l'autre fait. On essaye surtout de le mettre en dehors de cette intrusion pour dire tu n'es pas dans ma tête, arrête de parler pour moi, arrête de penser pour moi. Et ça, c'est vrai que c'est effectivement très agaçant. On le fait beaucoup, ça.
Bon, bah, Altian, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir donné...
Merci beaucoup aussi à vous, à Cécilia.
Merci beaucoup pour ces conseils. Vous avez une question, peut-être, Altian, à poser ?
Ah non, j'ai pas de question. Je pense que tout a été clair. Comme
juste de très bons conseils. Alors, merci beaucoup, Altian. Jérôme Oliveira, j'aimerais rebondir aussi sur ce que vient de dire Cécilia Como au sujet des disputes. Elle disait que la forme était importante. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des bonnes façons de se disputer ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une espèce de compatibilité dans la dispute et qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour se disputer ensemble ? Et donc, si c'est important de se disputer, c'est aussi important de savoir le faire correctement.
Alors, Altian, en introduction, a dit un mot qui a résonné en moi, c'est le mot « raison ». Et la raison, je pense qu'elle fait aussi appel au bon sens. Et effectivement, dans la forme, il faut faire appel à la fois à la raison et au bon sens. D'une certaine façon, si on est violent dans nos propos, à savoir si on cherche, même de façon non intentionnelle ou inconsciente, à manipuler l'autre, à le juger, à l'interpréter, comme l'a dit Cécilia, nécessairement, ça va déboucher sur encore plus de conflits ou en tout cas créer la graine pour d'autres conflits ultérieurs. Et par rapport à l'interprétation, les suppositions, les hypothèses que l'on fait tous en général dans toutes les situations de la vie, pour aller dans le sens de Cécilia, je pense que c'est tout à fait aussi juste quand il n'y a pas de dispute. Effectivement, c'est hyper vrai quand on est en plein conflit et on cherche d'une certaine façon à exprimer ce que pense l'autre en l'interprétant, mais c'est aussi vrai dans le quotidien quand tout va bien. Il ne faut jamais chercher à interpréter ni les silences, ni les actions, ni les faits et gestes, mais plutôt peut-être exprimer ce que l'on ressent. Parce que ce que l'on ressent, c'est des faits, plutôt que de chercher à analyser l'autre, parce que de toute façon, je pense que lorsqu'on le fait, on tombe toujours à côté.
Patricia est en ligne avec nous. Bonjour, Patricia.
Oui, bonjour.
Racontez-nous, Patricia.
Alors, je parle en mon nom, hein, par rapport à mon expérience. Je suis restée mariée 7 ans. Mmh. Et que pendant 7 ans, hein, quand vous entendez comme ça, bon, on nous dit il ne faut pas interpréter. Bon, c'est pas évident. Quand j'ai dit 7 ans, ça résonne bien. Mais je dirais 7 ans de servitude.
Ouf, c'est fort.
Et c'est pour cela. Et c'est pour, oui, je vais être dure, c'est mot dur. C'est 7 ans de servitude, déguisé par le mariage, déguisé par le couple, la vie du couple. Et si ça a duré 7 ans, c'est passé, je portais la jupe, le pain, la robe, le pantalon, le bermuda, les chemises, la camisole, tout ça.
Comment vous vous en êtes rendu compte, Patricia?
Ben, je me rendais compte tous les jours. C'est parce que je me dis, vous savez, les faux espoirs qu'on intègre parce qu'on a la considération pour l'autre, pour ne pas dire aimer. On se dit, c'est pas le moment, j'ai pas trouvé le mot, j'ai pas trouvé les secondes, les jours, l'année. Hein. Donc on cultive des faux espoirs alors qu'on voit que c'est constant.
Et qu'est-ce qui vous a fait prendre la décision après ces 7 années de mariage? Vous êtes séparés?
J'ai fait le tour. J'ai parlé aux copains, j'ai fait intervenir les copains, les grands-oncles, les grandes-tantes, les arrière-arrière-arrière, j'ai ressuscité tous les morts du monde. J'ai dit, mais non, le problème, c'est pas parce qu'on n'arrive pas. Et pourtant, moi, je suis pas comme j'ai... Parce que je suis toujours votre émission, c'est tout à l'heure d'ailleurs. Je suis pas dans l'interprétation, je suis dans les faits. Voilà ce qui ne va pas, voilà ce qui ne va pas, voilà ce qui ne va pas.
Est-ce que vous avez un conseil, peut-être Patricia, à donner à des auditeurs ou des auditrices qui se retrouveraient dans les mêmes interrogations que vous avez eues pendant ces 7 années, avec ces faux espoirs, etc.
Tout à fait, j'en ai donné pas mal, mais le problème c'est quoi? Ces femmes et ces hommes d'ailleurs, hein, parce que les hommes en général se cachent, puisque dans leur tête... C'est eux les plus forts, c'est les plus cachent leur souffrance. C'est la femme qui parle plus loin. Quand je parle, vous savez ce que les femmes disent? Ça, c'est ton avis. C'est ta façon de voir les choses. Et beaucoup des femmes qui ont peur de la solitude, qui ont peur de qui en dira-t-on, qui ont peur de ne pas rencontrer encore, de faire une autre nouvelle rencontre. Donc, elles préfèrent supportable. Ça ne passe pas.
Vous vivez seule à présent, Patricia?
Jérôme Oliveira vous demande si vous vivez seule à présent, Patricia.
Oui, oui. Mais c'est pas par choix. Hein. C'est parce que c'est les mêmes choses qui reviennent. Ils sont plus nombreux que ceux qui sont bien. Ceux qui sont bien, ils sont tous pris.
Cécilia Como, qu'est-ce que vous voudriez dire à Patricia à ce sujet?
Ben oui, Patricia, elle décrit une situation qui mène droit à l'échec. C'est que quand on n'est pas entendu, ça ne peut pas fonctionner. Tôt ou tard, ça ne peut pas fonctionner. Il y a des réponses à la question « comment tu m'aimes ?» Elle n'avait pas de réponse. En termes de reconnaissance, elle n'était pas reconnue et elle n'était pas entendue. Il n'y a rien, ou alors je vais le dire dans l'autre sens, il y a tout là pour que ça aille direct dans le mur, effectivement.
Et comment on sait alors quand on doit partir? Oui, Patricia, excusez-moi.
Oui. Vous vous dites que comment on peut vivre avec quelqu'un et qu'on l'écoute pas? C'est quoi cette vie de couple? C'est quoi le relation avec l'autre? Même pas dans le couple, mais dans la vie de tous les jours. Mais il n'est pas sourd. Comment il peut pas m'écouter?
Et Patricia, ben justement, mais je pense que vous êtes quand même très très en colère justement parce que vous avez dit une chose, supporter l'insupportable, c'est quelque chose que je dis souvent, quand on tolère l'intolérable, on se retrouve à un moment donné dans une situation où on va être, c'est vrai, en colère contre l'autre, mais surtout aussi en colère contre soi. Et quand on est dans cette situation-là, effectivement, je pense que je reconnais bien le ton enflammé qui est le vôtre, de se dire, mais pourquoi j'ai toléré tout ça? Et on s'en veut à soi.
Pas, madame. On se dit, avec le temps, on dit, peut-être il y a l'éducation, il y a la façon de voir les choses, il faut pas tenter. Je dis même pas, bon, on peut dire tolérer, oui, pourquoi pas. Mais je dis, on patiente, peut-être avec le temps, c'est pas le même tempérament, c'est pas la façon, c'est pas même l'éducation. Il faut un peu la patience. Enfin, c'est faux tout ça. C'est la personne, la considération que la personne a envers vous.
On dirait, Patricia, que vous regrettez d'avoir attendu si longtemps et que vous auriez aimé vous en rendre compte plus tôt, c'est ça?
Pas du tout. Je regrette rien du tout. J'ai fait ma part. J'ai affaire à un égoïste et puis c'est tout. Non, je regrette rien. Du tout, du tout, du tout, du tout.
Patricia, est-ce que cette relation vous a aidé néanmoins à identifier davantage qui vous êtes, ce que vous ressentez et ce que vous désirez dans la vie ?
Je sais ce que je suis, monsieur. Je sais ce que je suis. Je sais ce que je suis. On se bonifie tout au long de ça. Je ne dis pas que c'est infaillible. Mm-hmm. Je sais tout. Hein. Je n'ai pas cette prétention-là. Mais je sais ce que je suis. Le problème, c'est tout simplement, eh ben, la personne n'a jamais aimé. Il a juste profité de ma bonté. Parce que j'ai une bonté éthiquement programmée. Vous voyez, j'exagère peut-être, mais c'est la réalité. Mais je ne suis pas le genre. C'est tout simplement, il y a une bonté, et cette bonté, ça se situe pas. On est avec, on n'est pas. Et comme je ne suis pas un genre, il se dit, bon, ben, je vais rester avec comme ça. Ben, je ne suis pas quelqu'un qui va rester avec comme ça.
Merci
donc
beaucoup.
J'ai... Voilà, tout simplement.
Merci beaucoup, Patricia, pour votre témoignage très fort. Merci aussi pour le conseil que vous avez donné. Jérôme Oliveira, j'ai posé la question tout à l'heure à Cécilia Como, mais vous, qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui nous écoute et qui se retrouve un petit peu dans les questionnements de Patricia, qui se demande s'il est temps de partir ou non, ou si ça peut toujours changer ?
De s'écouter. Déjà, essayer d'être en contact avec ses sensations, ses émotions, ses sentiments, ce qu'on a envie, ses désirs. Essayer de retrouver une forme d'intégrité émotionnelle, sensorielle. Essayer de ressentir et puis de mettre des mots sur ce que l'on peut ressentir. Il y a une étude qui est parue très récemment, je l'ai découverte ce matin, à savoir sur le vocabulaire. Il y a, c'est une étude américaine qui ont étudié des couples sur une année et des échanges à peu près, je crois, plus d'un million et demi d'échanges. Et il s'est avéré qu'ils étaient capables de prédire de l'échec amoureux et de la séparation juste par le changement de vocabulaire. À savoir, trois mois avant une rupture, il y a le « nous » qui tend à disparaître, le « je » qui tend à faire surface, et les émotions, les sensations, ce que l'on ressent, qui commence à s'affirmer. Et je pense que c'est un processus, ça semble évident, dit comme cela, mais de voir le lien avec le vocabulaire et le fait de mettre des mots dessus, je pense que ça s'impose également comme un processus qui devrait devenir conscient.
On va écouter tout de suite un autre témoignage d'un auditeur qu'on a reçu ce matin.
Bonjour voisin, bonjour voisine, c'est Ghislain Toshoedo depuis Cotonou au Bénin. Lorsqu'un couple ne se comprend plus, la première chose à faire, c'est de chercher un ami au couple, un ami responsable qui peut essayer de les raisonner pour une tentative de réconciliation. Si ça ne marche pas, on va chercher deux personnes âgées des deux familles qui ne vont pas prendre partie d'un ou de l'autre du couple et gérer la situation. Si ça aussi, cette tentative de réconciliation ne marche pas, qu'on ait d'enfants ou pas, la seule chose à faire, c'est de se séparer. Sinon, quand on ne se sépare pas et ça perdure dans le temps, on commence par se détester et jusqu'au point où on se haït. Quand on arrive à ce point-là où on se haït, on peut porter atteinte à la vie de l'autre juste pour s'en débarrasser. Donc pour moi, c'est comme ça qu'on peut gérer cette affaire-là.
Ghislain de Cotonou, donc, qui nous dit qu'il a fait appel à des amis pour avoir des conseils sur cette dispute. Cécilia Como, avoir comme ça un arbitre, en quelque sorte, faire appel à quelqu'un d'extérieur, est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez vous aussi ?
C'est compliqué. Enfin, c'est un petit peu compliqué.
En dehors d'un thérapeute de couple, hein, bien sûr.
Oui, alors justement, c'est moi, je conseille toujours d'avoir des amis, mais parce que le lien social nous fait du bien et que être réconforté par quelqu'un, parler à quelqu'un, être écouté par quelqu'un, ça fait énormément de bien. Après, la difficulté, c'est que finalement, les gens qui viennent voir Jérôme Oliveira ou moi sont des gens qui vous diront qu'il y a, une difficulté dans l'objectivité vis-à-vis de l'ami. Et que quand ils sont en couple et qu'ils ont des sentiments forts pour leur partenaire, ils n'ont pas envie que ce partenaire soit jugé. Or, ils savent un petit peu que, inéluctablement, s'ils en parlent à un ami, ben, il peut pas être neutre ou partiale. Ils savent aussi, par exemple, beaucoup disent, je peux pas non plus en parler, même s'ils ont de très bonnes relations avec des membres de leur famille, parce qu'ils ont très très peur que leur partenaire, ensuite, soit mal vu, et que si ils arrivent à arranger quelque chose, bien restera quand même cette image de l'autre, du fait qu'ils se sont confiés. Donc c'est un petit peu les freins, et c'est pour ça, du coup, que beaucoup de gens partent sur des thérapies ou chercher un tiers professionnel.
Cécilia Como, merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Je rappelle le titre de votre livre, Le couple parfait n'existe pas, éloge de l'imperfection amoureuse chez Flammarion. Vous étiez donc en ligne avec nous, et si je peux résumer en quelques mots ce que vous avez dit pour renouer le dialogue, trois choses: écouter, arrêter de penser pour l'autre et accepter que dans une dispute, il n'y ait pas forcément de solution à l'arrivée. C'est bien ça, Cécilia ?
C'est pas mal, effectivement. Merci pour la synthèse, Amélie.
Et merci aussi à vous, Jérôme Oliveira. Votre livre « Burning Love, le journal pour brûler d'amour sans se brûler les ailes » paraît le 26 janvier prochain aux éditions Erol. Merci infiniment.
Merci à tous, merci à vous, Amélie. Bonjour, bonsoir, d'un commis. Oh, 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 falis, bye bye, au revoir, d'où Rap gal, sen, kane, quo, bar, n'yo, kosi, wis. Explosé, lo, ay, carrière, fimo, iso, kosi, moi, legina. Legina. Wa, legina. Kon, legina. Wa, legina. Legina. Wa, legina. Legina. Kolat, na, len, begis. Khana, ay, fake, de puce. Wanat manyen nen fis tala lenen erbi mana fak tala tender lay bis kala shal ngay caprice traverser ñew fi yok sa tim lay rendi xati bu muy brise gene wu lo courant te son bi lay gene mas ñep pourtant wa legi nak kula fi xar ku ne li nga beuy rek ngay toge sa ginna te bu ko da xassal dama gëjël ak ay rappeur wa yaangi ari car ma ngi ay rappeur ñat rappeur ñoma ëmbël merte amu ñu sax mak ñom ay rappeur e ma len ko dakh fu rap len lu terater lolé gene na ko sang suuf tim len di faxa su gelo du tax souf bala gay bokul ak bala djuf si woni tak souf rabo de farantou bul teste sam gala djou sete sam marabou to ngati bara souf tala moy wan diga ney ma du sa de chou det diga man beguma de fet bi fal bu tuney ge ge tem guer li dafa fess del cocktail buna de che def tagge bi ñongi may juge ta album bi dafa bu bokko ci se de boy bu ñu ngembe ci gembe bu ñewé fi forcément mu def ko pe defo it comme bonjour bonsoir dañ ko miss waxo waxu falis bye bye au revoir do ñu giss rap gal sen kané quo bar ñoo ko si wis explosé lo ay carrière fi moy so ko si moi légui nak légui nak wa légui nak kon légui nak wa légui nak légui nak wa légui nak légui nak c'est le boomer sama drapeau ay règle am rek moy tax ma ciup ko faut ñu sédal en tir rythme slowmo clash bëgg ci du ñoy def sa promo mané ak respect sa ne karavage jitu jël té balen ñu dagu né ay jék légal caché signé ay chèque sa fel fép li kay tétal du lin set ay ñu ngey gëd di bëgg men ci fét level bi di juk té naan ñu ñaké doñu jitu même bo nékkon doomu jitlé é fakki 8 milliards de voisins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Damien Roucou, Zeynaba Diallo, Divine Berthoud, Valentine Lemaire et à la technique et à la réalisation Romain Dubrac et Nicolas Benita. Demain, vous retrouverez Emmanuelle Bastide à ce micro pour une émission cuisine et légumineuse. Elle attend vos meilleures recettes et vos conseils pour préparer lentilles, haricots, pois et fèves avec, entre autres, le chef Anto qui sera son invité. Appelez-nous dès maintenant sur WhatsApp. Le numéro, c'est le 337 64 45 51 41. On attend vos messages et vos appels. À demain, même heure, sur RFI.